Disque de légende, c'est la nuit sur Radio Classique.
Thank you. Radio Classique.
Thank you.
Retrouvez Radio Classique de nuit, tous les jours à minuit, sur Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
L'invité de la France de demain, Antoine Alibert, président et fondateur de French Mush. Bonjour.
Bonjour.
Vous commercialisez des produits de bien-être à base de champignons, champignons adaptogènes utilisés par la médecine chinoise depuis des siècles pour leurs différentes propriétés. Ils peuvent être énergisants, relaxants, antioxydants. Est-ce qu'on peut parler de produits de santé? Est-ce que la réglementation le permet?
Oui, tout à fait. Alors, ce sont des compléments alimentaires. Donc aujourd'hui, la réglementation en France les considère comme des compléments alimentaires. Donc ça peut être pris en prévention pour la santé, pour en effet l'énergie, l'immunité, ou même justement parfois quand on est peut-être en déclin cognitif, on a du mal à se concentrer. Et donc dans ce cas-là, vraiment avec des vertus un peu plus santé.
Alors le marché des compléments alimentaires est toujours en nette croissance, plus 3% l'an dernier en France, avec un chiffre d'affaires global de 2,7 milliards d'euros. Cette croissance, vous la ressentez également ?
Alors oui, tout à fait. C'est vrai que les Français et Françaises s'intéressent de plus en plus, on va dire, à une santé au naturel et encore une fois en prévention, plus que pour, on va dire, soigner les symptômes. Donc en effet, ouais, il y a une nette augmentation de la santé au naturel de façon générale et donc du marché des compléments alimentaires.
Alors tous vos produits sont à base de champignons, notamment le Lion's Mane, c'est la crinière du lion en français. Vous le commercialisez sous forme de gélules pour stabiliser l'humeur, améliorer les capacités cérébrales et la concentration. Comment est-ce que vous mesurez les effets de ces gélules ?
Ouais, tout à fait. Alors c'est très intéressant parce que en fait notre extrait de Lion's Mane ou crinière de lion, en fait c'est le premier extrait en Europe à avoir été testé cliniquement et à avoir justement une étude scientifique qui a été menée en 2023. Donc on a mené une étude, justement on appelle ça une étude double randomisée, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont prendre le complément alimentaire, d'autres le placebo. Et on a pu noter justement une augmentation de la mémoire et de la concentration, de l'humeur et des fonctions cognitives, justement sur le groupe qui avait pris l'extrait de Lion's Mane. Et on est allé un peu plus loin, on a voulu tester justement s'il y avait un effet à court terme. Et en effet, on a réussi à démontrer qu'en moins de 2 heures, il y avait une augmentation de 7 à 8% de la mémoire et de la concentration. Donc justement, ouais, il y a bien sûr plein d'études scientifiques qui existaient déjà, mais nous, on a réussi à démontrer que notre extrait de Lion's Mane, de par sa qualité, augmentait justement les fonctions cognitives.
Vous testez toutes vos gélules de la même manière ?
Alors, on va les tester de la même façon dans le futur. On s'est vraiment concentré sur le Lion's Mane dans un premier temps. C'est des études qui coûtent extrêmement cher. Et nous sommes une start-up, au final, donc une petite entreprise. On est une entreprise de 20 personnes, donc une belle équipe. Mais on reste une start-up et on a pour projet de tester avec des études cliniques l'ensemble de nos produits. Après, par contre, l'ensemble de nos gélules, l'ensemble de nos champignons sont testés en pesticides, en métaux lourds et en principes actifs et en molécules actives. Ça, bien sûr, c'est une évidence.
Parmi les produits que vous commercialisez, quels sont ceux qui ont le plus de succès? Quels sont les effets qui sont les plus recherchés?
Alors en ce moment, ce qui est vraiment recherché, c'est beaucoup l'immunité. Et c'est vrai que c'est le cas d'usage principal justement des champignons médicinaux. Car en fait, les champignons médicinaux sont concentrés en bêta-glucane. En fait, ce sont des molécules incroyables pour justement vous protéger face à l'hiver, face au changement de saison. Donc ça, c'est ce qui est très recherché actuellement. Donc ça, c'est le point commun entre tous les champignons médicinaux. Et le deuxième cas d'usage, c'est vraiment sur la concentration, la mémoire, l'énergie, je dirais même un peu plus globalement la productivité. Et ça, c'est les deux champignons qui vont être recherchés pour ça, c'est la combinaison Lion's Mane et Cordyceps, parce que c'est important de le préciser, mais on peut consommer plusieurs champignons médicinaux en même temps, et il y a même un effet synergique justement sur l'immunité et la vitalité, car l'ensemble des champignons médicinaux sont concentrés en bêta-glucane.
Antoine Alibert, où sont distribués les produits French Mush?
Alors, vous pouvez les trouver déjà donc sur notre site internet. Nous, on fait 90% de notre chiffre d'affaires en ligne, donc www.frenchmush.com. Et aussi en pharmacie, aujourd'hui on est présent dans un peu plus de 400 pharmacies en France. Donc c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Donc sur notre site internet ou en pharmacie, et sur notre site internet vous avez une carte où vous pouvez voir où trouver nos produits si besoin.
Merci beaucoup Antoine Alibert, président et fondateur de French Mush.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Comment j'ai réussi reçoit ce matin Clarisse Merlet, fondatrice de Fabrique. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes architecte et pendant toute votre formation, vous avez travaillé, vous avez réfléchi sur la manière de construire en utilisant nos déchets. Alors, vous avez étudié différents types de déchets et finalement, vous avez choisi de construire des bâtiments à partir de vêtements recyclés. Comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors c'est assez simple, on récupère du textile qui est hors d'usage, donc on peut pas du tout reporter, même en seconde main. On vient le broyer, le mélanger à un liant écologique que j'ai inventé, et ensuite on compresse sous forme de briques. Et donc aujourd'hui c'est pour faire de l'aménagement intérieur, mais j'espère bientôt pouvoir faire de la construction avec.
Aménagement intérieur, ça veut dire qu'on peut construire quoi avec ces briques ? Des cloisons de séparation, des systèmes d'isolation ?
Oui, aujourd'hui, ça va être surtout du revêtement mural pour de l'isolation thermique et de l'absorption acoustique. C'est esthétique, donc on choisit la couleur des briques. En fait, on vient trier les textiles par couleur avant le broyage. On rajoute pas du tout de colorant. Et on fait du coup de l'aménagement, donc des cloisons, du mobilier aussi. On peut créer des bibliothèques, des assises, des lampes, tout ce qu'on veut. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment pour la partie décoration, mais c'est la première étape puisqu'on veut vraiment aller sur la construction après.
Est-ce qu'il y a des contraintes en matière de type de textile ?
Non, on peut tout mélanger au début. Je pensais que je pourrais recycler que du coton. Et finalement, on arrive à recycler aussi toutes les matières plastiques. Tant qu'on le mélange à du coton, on peut tout prendre. Et on prend aussi tous les points durs, donc les boutons, les zips. On démonte pas du tout le vêtement, on met tout dans le broyeur.
Est-ce que c'est solide ? Est-ce que c'est durable ?
Alors c'est durable, oui, et c'est solide. C'est assez solide pour faire du revêtement. Et nous, on a fait le choix de ne pas mettre de résine du tout ou d'ingrédients pétro-sourcés. Donc ça reste un aspect assez brut et assez doux au toucher. En fait, c'est comme doux comme un vêtement finalement pour les murs et le parpaing, j'espère, et le bloc de construction sera beaucoup plus solide.
Comment est-ce que les professionnels ont accueilli votre initiative ?
Ouais, plutôt bien, puisque j'ai deux types de professionnels avec qui je travaille. C'est ceux qui veulent recycler leur textile et ceux qui veulent des matériaux éco-responsables. Et donc, ceux qui veulent recycler leur textile sont de plus en plus obligés de trouver des solutions, parce qu'ils n'ont plus le droit d'incinérer ou d'enfouir leurs déchets textiles. Et les architectes, de l'autre côté, cherchent de plus en plus des matériaux éco-responsables, puisque pareil, ils sont obligés de mettre un certain pourcentage de matériaux responsables dans leur projet.
Vous recyclez 15 tonnes de textiles par an, pour l'instant. C'est facile à trouver ?
C'est le seul problème qu'on n'a pas. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 tonnes de déchets textiles en France. Donc, avec mes 15 tonnes, je suis...
Le sourcing est relativement facile.
Oui.
Quel est le potentiel ? 15 tonnes, vous avez un objectif ?
Oui, on aimerait passer à 50 tonnes d'ici 2027. Je viens justement de boucler une levée de fonds pour y arriver.
Ouais. Vous êtes pour l'instant implanté dans Paris intramuros. Si vous arrivez à 50 tonnes, que vous passez vraiment à une échelle industrielle, est-ce que vous allez finalement sortir de Paris ?
Oui, je pense que ce serait indispensable. Là, l'idée, c'était d'avoir le showroom et l'atelier au même endroit. Comme ça, on peut montrer à nos clients en direct ce qu'on fait, en toute transparence. Et donc, l'idée, c'est de finir le projet pilote dans Paris pour ensuite pouvoir le dupliquer en France, mais pourquoi pas en Europe et à l'international, puisqu'on a déjà demande dans ce sens.
Les produits textiles sont souvent pleins de produits polluants. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ces briques de diffuser à l'intérieur des bâtiments des polluants qui sont contenus dans les fibres textiles ?
Alors j'en avais peur aussi, du coup on a fait des tests en laboratoire et finalement on est COV A+, ça veut dire qu'on rejette rien du tout une fois que la brique est figée, c'est figé.
Et il n'y a pas de produits chimiques ajoutés pour assurer la solidité de la brique ?
Alors non, ça a été tout l'enjeu, c'est que moi c'était mon projet de diplôme à l'école d'architecture au départ, donc j'avais créé une colle 100% écologique, donc c'était faisable à petite échelle mais c'était dur de l'imaginer à plus grande échelle et finalement j'ai réussi à tenir, donc aujourd'hui notre liant n'a que 3 ingrédients, c'est la secret sauce mais c'est un ingrédient biosourcé et 2 minéraux.
Alors on va parler d'argent. D'abord, le prix de ces briques, est-ce que c'est compétitif par rapport à d'autres matériaux ?
Pour le moment, on est assez élevé. On est un peu plus cher que du marbre, pour comparaison. Donc on est à 5 euros la brique. Donc ça fait 250 euros le mètre carré.
Ouais,
donc
c'est très cher.
Voilà, c'est ça. Si on fait tout à la main, on fait que 200 briques par jour. On fait tout en France, comme vous l'avez dit. Donc c'est assez cher. Et l'idée avec cette nouvelle levée de fonds, c'est de pouvoir faire plus de briques, recycler plus et que ça soit moins cher cher à l'avenir.
Alors justement, la levée de fonds, qui est-ce qui vous finance ?
C'est un investisseur privé, donc un business angel, qui a déjà investi sur Fabric en 2021, qui réinvestit là aujourd'hui, et deux subventions aussi de la région Île-de-France et de l'ADEME.
Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous présenter votre initiative à la fois écolo et originale. Clarisse Merlet, fondatrice de Fabric. Ça s'écrit Brick, B-R-I-C-K, une Brick donc à l'anglo-saxonne. Et je rappelle donc vous êtes architecte et c'est le fruit de vos années d'études de ce projet, cette entreprise Fabric.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour Luc Ferry.
Bonjour Stéphane.
Philosophe, ancien ministre, ce matin vous allez décortiquer une expression pour nous, la brebis égarée. Ça vient d'où ?
Alors c'est un symbole du pêcheur, c'est dans Luc chapitre 15 et c'est présenté par Jésus par l'évangile comme une parabole. Il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue? Et alors le bon berger, c'est celui qui, paradoxalement, c'est pas du tout utilitariste, hein, c'est celui qui va laisser les 99 brebis dans le désert pour aller en sauver une seule. Pourquoi? C'est bizarre, hein, d'un point de vue utilitariste, on dirait un utilitariste anglais, dans la morale utilitariste.
Il court le risque de perdre les 99 autres.
Il y a peut-être des loups ou des lions. Donc il faut d'abord protéger les 99. Pourquoi en sauver une plutôt que 99? C'est pas logique. Et alors, Jésus, la parabole continue. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la brebis qui était perdue, donc symbole du pêcheur. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Pas besoin de repentance. Voyez, quelle est l'idée de cette parabole? Alors souvent, on fait une distinction entre parabole et allégorie. J'ai du mal à la voir parce qu'on dit allégorie, c'est une suite de symboles, parabole. C'est au fond une allégorie avec des symboles aussi, comme là c'est bien la brebis et le symbole du pêcheur, et le berger le symbole du sauveur, donc on est bien dans une parabole qui est allégorique. Bon, alors laissons la cuisserie de côté. Donc bien sûr, c'est ce qui est très intéressant dans cette parabole allégorique, c'est que c'est une parabole sur le pardon, sur la repentance et sur la conversion. Ce que veut dire Jésus, c'est que un juste, il a pas besoin d'être repêché. Il n'a pas besoin d'être sauvé à proprement parler. Il est déjà sauvé s'il est vraiment juste. Mais ce qui est intéressant, c'est le cas du pécheur. Et c'est le cas du pardon. C'est celui qui peut être pardonné pourvu qu'il se repente. Même au dernier moment. Et donc, c'est l'idée qu'au dernier moment, on peut être sauvé. Et c'est pour ça que l'Église est contre l'euthanasie. Les gens comprennent pas ça. C'est pas parce que l'Église est méchante et qu'elle veut voir les gens souffrir au moment de la fin de vie. C'est parce qu'elle dit, mais même au dernier moment, si le pécheur se repentit vraiment, comme la brebis égarée, eh bien, le repentir peut le sauver. Donc, ne privez pas le pécheur de cette possibilité de la conversion au dernier moment, du repentir au dernier moment, et la brebis égarée qui revient dans le troupeau. Voilà, et c'est ça qui est derrière. Alors, on peut évidemment contester ça, mais d'un point de vue lexicographique, comme disent les cuistres, la lettre A vient toujours avant la lettre B, même si elle est suivie d'un Z. Azimut, ça vient avant Baliverne, voilà. Avant BA, AZ vient avant BA. Là, de la même manière, sauver un pêcheur, c'est plus important que protéger 99 justes.
Merci beaucoup.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Et bonjour François Vidal.
Bonjour David.
Si le gouvernement est renversé cet après-midi, c'est le budget 2024 qui s'appliquera l'an prochain. Avec quelles conséquences ?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'impact financier de cette prolongation sera limité. En tout cas sur le papier. Pour une raison simple, c'est que d'une année sur l'autre, les dépenses de l'État sont automatiquement relevées du montant de l'inflation et de la croissance prévue. La reconduction du budget 2024 va donc se traduire par un coup de frein sur les dépenses de 15 à 18 milliards d'euros par rapport à ce qui était prévu pour 2025. Une véritable cure d'austérité. De quoi compenser quasiment la disparition des hausses d'impôts proposées par Michel Barnier, telles que l'impôt minimal sur les plus hauts revenus ou la surtaxe d'IS sur les grands groupes. Au total, selon les économistes de Natixis, le déficit atteindrait 5,3% l'an prochain. Un scénario proche des dernières versions du budget 2025.
Mais alors j'imagine que dans le détail, ce ne sera pas un jeu à somme nulle pour tout le monde.
En fait, on va assister à un gigantesque jeu de vases communicants entre actifs et inactifs, avec d'un côté côté des contribuables qui vont devoir payer collectivement 4 milliards de plus pour cause de gel du barème de l'impôt sur le revenu, et de l'autre, des retraités qui bénéficieront tous d'une augmentation de leur pension au 1er janvier pour un total de 3 milliards. Mais ces projections sont à prendre avec des pincettes, hein, car elles ne tiennent pas compte des effets délétères que cette situation inédite sous la Ve République risque d'avoir. Sur l'activité économique d'abord, hein, selon l'OFCE, la croissance pourrait être divisée par 2 l'an prochain pour tourner autour de 0,5%. Sur le coût de financement de la dette publique ensuite, hein, dont l'envolée pourrait se traduire à terme par de nouvelles économies et de nouveaux impôts. En clair, David, avec la censure du gouvernement Barnier, nous allons entrer en territoire inconnu.
François Vidal pour l'éditorial avec les Échos. Les Échos qui titrent ce matin « Retour à la case départ » avec une photo d'Emmanuel Macron.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Les voix de l'économie, votre invité Stéphane est entrepreneur, mais il préside également la Fondation du patrimoine. Il va nous dire finalement quelle est la part des Américains dans la prise en charge de la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
Bonjour Guillaume Poitrinal.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Un peu plus de 5 ans après son incendie, la cathédrale Notre-Dame rouvre ses portes ce week-end. Sous les yeux du monde entier, l'ex et futur président américain Donald Trump va même faire le déplacement. C'est une façon de rappeler que le patrimoine constitue un élément de rayonnement important pour un pays.
C'est essentiel en fait. Ce qui va se passer. D'abord, cette collecte a été immense et le soulèvement populaire qu'il y a eu a été considérable. À la Fondation du Patrimoine, on a reçu et ça a été le record absolu, hein, près de 230 000 dons du monde entier. Et aujourd'hui, en fait, la Renaissance qui va être célébrée. Samedi et dimanche, la renaissance de Notre-Dame. Pourquoi est-ce qu'elle intéresse les politiques ? Mais tout simplement parce qu'il y a un soulèvement populaire derrière. Et ce soulèvement, évidemment, c'est beaucoup d'espoir pour le reste du patrimoine, parce que le reste du patrimoine, il est en danger aujourd'hui.
Le financement de la reconstruction de Notre-Dame a été largement assuré par les grandes fortunes, les grandes entreprises françaises, mais aussi par des étrangers. 15% des donateurs à la Fondation du patrimoine sont des étrangers, une partie sont des Américains. Comment est-ce qu'on explique cette cote d'amour à l'international pour Notre-Dame ?
D'abord, il y a un phénomène strictement télévisuel, c'est-à-dire qu'en fait, l'incendie a tourné en boucle sur les chaînes d'info, avec des images franchement terribles, et qui ont marqué, je crois, toute la population mondiale. Et puis ensuite, Notre-Dame, c'est Paris, c'est la France, et la France, elle compte plus beaucoup sur le plan économique, on le regrette, elle compte plus beaucoup sur le plan militaire, on le regrette, mais elle compte encore dans, je crois, l'inconscient collectif de l'humanité pour son patrimoine. Pour ses musées, pour Notre-Dame, pour la Tour Eiffel, pour Paris, mais aussi pour ses petits villages, un petit peu partout en France. Et c'est ce patrimoine d'ailleurs qui explique pourquoi nous sommes une des premières destinations de tourisme. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est derrière Notre-Dame et cette émotion internationale considérable qu'on va voir, hein, puisque Paris va être bloqué, j'ai l'impression, à partir de cet après-midi ou demain, pour recevoir tous ces chefs d'État.
Avec un processus de sécurité qui est similaire à celui des Jeux Olympiques pour la zone de l'île de la Cité à Paris. Le financement de la reconstruction de Notre-Dame, certains redoutaient que, selon le principe des vases communicants, qu'il assèche le financement d'autres travaux de restauration du patrimoine. Est-ce que ça a été le cas ?
Non, pas vraiment. Mais ceci dit, au bout d'un mois de collecte, nous, à la Fondation du Patrimoine, en 2019, nous avons arrêté la collecte. Pas tellement parce que ça, il y avait des vases communicants, mais tout simplement parce que nous, nos collectes, c'est d'abord le boulot de 1000 bénévoles qui font des réunions, envoient de l'information, travaillent, et que quand ces 1000 bénévoles travaillent pour Notre-Dame, bah ils travaillent pas pour les petites églises, pour les petits théâtres, pour les petits ponts, pour les petits musées partout en France. Donc très clairement, au bout d'un mois, quand on a vu qu'il y avait plus de 800 millions d'euros pour la cathédrale, c'était formidable. On espérait à l'époque lever 200 millions, 300 millions. 800 millions, c'est une somme jamais atteinte. Hein. La cathédrale, elle fait 4000 mètres carrés. Donc ça veut dire que par mètre carré, on a réussi l'exploit de réunir près de 200 000 euros de capacité de travaux. Donc c'est absolument hors norme. Et on s'est dit, c'est bon, la cathédrale est sauvée. Alors ça avait fait un peu réagir à l'époque, il y a eu un peu de polémique. La France, c'est le pays de la polémique. Donc il y a eu de la polémique, mais on est heureux d'avoir participé. La Fondation du Patrimoine, si vous voulez, c'est 70% des dons en nombre et en volume, si on exclut les trois familles d'entrepreneurs que l'on connaît, qui ont réussi, Monsieur Arnaud, Monsieur Pinault et Madame Bettencourt. Clairement, pour nous, ça a été beaucoup de boulot, beaucoup de mobilisation, cette collecte. On a tout mis en œuvre pendant cette collecte. On a mis en œuvre, on a inventé les dons par SMS, on a inventé les dons sans contact, on a travaillé avec Amazon, avec Google pour avoir des pages. On a été repris partout dans les gares grâce à nos amis de Média Transport. Donc ça a été pour nous beaucoup d'innovation, beaucoup d'ailleurs aussi de choses qu'on a mis en œuvre et qui on va continuer à développer pour le reste du patrimoine.
Alors justement, est-ce que cette recette, ce succès, on peut la dupliquer pour sauver d'autres monuments français ?
Alors on l'a fait. On a créé une collecte juste après qui a eu pas mal de succès d'ailleurs, qui s'appelle Plus Jamais Ça, pour les monuments en péril, je dirais aussi pour toute la question de la sécurité incendie qui est très mal traitée dans notre pays, alors que la technologie existe, hein. Donc, c'est d'ailleurs très très amusant, comme nous dans le privé, dans l'immobilier privé, parce que c'est aussi une autre part, c'est mon métier, moi je ne suis que bénévole à la fondation, mais dans l'immobilier privé on nous impose des tas de visites, de commissions de sécurité, on teste le désenfumage, on teste des tas de choses, il faut des appareils formidables qui
fonctionnent. C'est aussi parce que vous faites des bâtiments en bois.
En plus, pour les bâtiments en bois, donc je suis sensibilisé. Et comment on s'est aperçu à l'occasion de Notre-Dame qu'en fait, il y avait des tas de charpentes formidables qui étaient juste pas protégées. Il n'y avait quasiment pas de système incendie. Je pense au Mont-Saint-Michel, par exemple, hein, où la première caserne de pompiers, on s'est aperçu, était à 20-25 minutes. Et avec... Alors, on a fait des efforts, la Fondation s'y est consacrée, le ministère de la Culture s'y est consacré, et aujourd'hui, on essaye en effet de venir au chevet. Alors, est-ce qu'il y a eu un effet d'entraînement ? Très probablement, parce que la Fondation du Patrimoine a multiplié par 3 son budget depuis 5 ans, par 2 le nombre de bénévoles, et elle est sur une pente. Il n'y a pas que l'effet Notre-Dame, il y a aussi l'auto du patrimoine avec le formidable Stéphane Bern, il y a tout ce qu'on essaye de faire avec nos partenaires entreprises, mais probablement qu'il y a eu un déclic. Je pense, les Français se sont dit, on peut pas laisser le patrimoine disparaître.
Il nous reste très peu de temps. La reconstruction de Notre-Dame, c'est aussi une formidable vitrine pour l'artisanat français.
Oui, en fait, l'artisanat, mais surtout ces entreprises qui ont su conserver les savoir-faire. Vous savez, là aujourd'hui, on dit toujours bravo, etc. Et tout le monde se félicite, le président félicite l'établissement public, etc. Moi, d'abord, je félicite les donateurs et les mécènes, parce que eux, ils ont pas fait leur métier. Les autres, ils ont fait un super boulot, mais c'était quand même leur métier. Ils sont payés pour. Les donateurs et les mécènes, ils étaient pas payés pour donner. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose, c'est que, oui, on a su conserver des métiers formidables. Nous avons les meilleurs tailleurs de pierre du monde. Nous avons les meilleurs fabricants de vitraux du monde. Nous avons les meilleurs charpentiers du monde. Il faut leur rendre hommage.
Merci beaucoup Guillaume Poitrinal d'être venu ce matin sur Radio Classique, président de la Fondation du Patrimoine. Il faut sauver les monuments. On en a un monument. David Abiker, tous les matins dans la matinale de Radio Classique. J'ai Stéphane... un peu raté ma sortie.
Non, vous reviendrez demain, vous ferez mieux demain, évidemment. Artisan de l'information économique sur Radio Classique. Stéphane, dès 6h demain.
Radio Classique. Rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Christian.
Bonjour David.
Le bilan de la visite d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite. L'industrie c'est une chose, la culture en est une autre. Pourquoi le domaine culturel prend-il tant d'importance entre les deux pays ?
Lors de sa visite en Arabie, Emmanuel Macron était accompagné d'une cinquantaine de patrons de grands groupes français, Total Energy, EDF, Veolia et beaucoup d'autres, et de start-up, Pascal, Alan, Mistral, et encore d'autres. Mais le plus étonnant concerne le champ culturel, car parmi les ambitions de MBS, le prince héritier Mohamed Ben Salman, la transformation de l'image du pays fait figure de priorité. Le royaume wahhabite entend édifier un modèle de développement très audacieux. Il veut tirer les leçons d'une phrase prophétique de l'emblématique Cheikh Yamani, qui disait « Ce n'est pas le manque de pierre qui a mis fin à l'âge de pierre, ce n'est pas le manque de pétrole qui mettra fin à l'ère du pétrole. »
Sagesse. Comment se traduit ce précepte concrètement ?
L'Arabie veut tourner la page des énergies fossiles, mais à son propre rythme. Elle veut être à la fois un pôle technologique majeur, un hub mondial incontournable et une terre de culture susceptible d'accroître son rayonnement. Avec plus de 300 exécutions capitales en 2021, 1984 contre 170 en 2023, le pays a atteint un record de peine capitale jusqu'ici inégalé. Ces mœurs cruelles sur lesquelles se fonde un régime théocratique détenteur des lieux saints de l'islam appellent une sérieuse correction d'image. C'est le sens du nouveau développement culturel que prétend incarner MBS. On a appris hier que Riyad s'engageait à contribuer à hauteur de 50 millions d'euros à la rénovation du Centre Pompidou à Paris en échange d'accords de coopération culturelle. C'est une gracieuseté très intéressée. Le Royaume des Sables offre un présent à la vieille République des Lumières afin que cette dernière l'aide à décrocher un label d'honorabilité, car la monarchie wahhabite sera l'hôte de l'exposition universelle de 2030.
Alors tout cela fait-il les affaires de la France ?
La France a signé 9 accords cadres de coopération pour apporter son expertise à Riyad, ce qui couvre un domaine très vaste, que l'archéologie, le patrimoine, les musées, le cinéma, les bibliothèques, l'ingénierie culturelle ou la formation des personnels saoudiens. Une convention spécifique vise à accompagner la rénovation des palais historiques saoudiens, dont 23 édifices royaux. La France avait déjà signé en 2018 un accord de coopération culturelle qui concernait le site d'Al-Oula, riche en vestiges archéologiques. En clair, la France aide l'Arabie à découvrir, à exhumer son passé, notamment pré-islamique, et à élaborer un storytelling national susceptible d'affranchir quelque peu ce pays de sa réputation rugueuse. En espérant que cela aussi induise des retombées géopolitiques, la France et l'Arabie co-présideront une conférence sur la création d'un État palestinien. À suivre donc.
Christian Macarian pour l'Écho du Monde, merci. À demain, Christian. À suivre, le journal imprévisible. Sort aujourd'hui un documentaire sur la vie de Michel Legrand, un journal imprévisible sur un homme et ses mélodies.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux.
Bonjour Marc Bourreau.
Bonjour David, bonjour à tous.
Imparable pour se réveiller, aujourd'hui sort en salle Il était une fois Michel Legrand, entre le film et le documentaire. Tout cela est consacré à la carrière du compositeur. Il faut dire que Michel Legrand, c'était le roi de la mélodie qui transposait la vie en technicolore.
Sol, la, fa, sol, si, la, sol. C'est un son mineur.
Quel est cet accent mineur, se demande Gene Kelly. Imaginez cet Américain dans cette chère ville de Rochefort, cette Charente maritime aux couleurs saturées, Françoise d'Orléac, cheveux de cuivre, Catherine Deneuve, blonde platine, Jacques Perrin, peroxydé. Ça ne se voit et ça ne s'entend que dans les films de Jacques Demy.
La musique d'un film, c'est un peu un pouvoir magique. C'est-à-dire que le spectateur doit être pris par la musique comme par un charme.
Et oui, ces images ne seraient rien sans la musique qui l'accompagne. Michel Legrand, formé par Nadia Boulanger, vitaminé par le jazz, artisan des premiers succès de Nougaro. Il arrive, Michel Legrand, avec son piano pour Lola, les parapluies de Cherbourg, la moitié de Demy, comme il se définit, invente alors la comédie musicale à la française.
Je dis, voilà ce que je voudrais essayer. Je voudrais essayer ton script ou les dialogues qui sont destinés à être parlés. Je vais les mettre en musique. Ça ressemblera pas à des chansons, ça ressemblera à autre chose. À des espèces d'arias, genre oratorio, en une heure et demie. On écrit tout ça, on est fou de bonheur avec Jacques. On s'embrasse beaucoup, on mange beaucoup. On savait qu'on avait quelque chose d'intéressant.
Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits? Si tu les connaissais, tu serais stupéfait.
Et voilà comment le duo Michel Legrand-Jacques Demy sublime la vie quotidienne des années 60. Il y a la scène de ménage à l'aube de la révolution sexuelle. Il y a aussi la cartographie joyeuse des villes de France.
Ah, j'oubliais la boutique de votre ici à gauche, et puis deux fois à droite.
Deux fois à droite, hein, n'oubliez pas David. Un monde parfait où les plannings d'entreprise ne se résument pas à de maudits tableurs Excel.
Touché. Tu peux faire une heure ce soir. Ce soir, ça m'est difficile. Et je pense que Pierre est libre.
Eh oui, Pierre est libre. Michel Legrand permet enfin à Catherine Deneuve, ou du moins sa doublure voix Anne Germain, de révolutionner la gastronomie.
Préparez votre pâte dans une jatte plate.
Je crois que c'est la première fois que je suis tombé amoureux, j'avais 5 ans.
Eh oui, tout un charme. Mais au fait, quelle est la recette de Michel Legrand, David, de solides bases musicales et une bonne pincée de fantaisie?
Moi, je me souviens, étant enfant, j'avais de l'admiration pour les grandes musiques qui ressemblaient aux grandes personnes, et à la fois, j'avais beaucoup d'amour pour les petites musiques qui étaient des musiques enfantines, et j'essayais de me redonner tout ça dans une espèce de mixture, de tarte, de recette qui, je l'espère, sera assez complexe pour la tête et assez simple pour le cœur.
Satisfaisant pour la tête, c'est pour le cœur. Finalement, tout est là, car Michel Legrand sublime aussi les histoires d'amour. Un thème qui se marie avec l'eau de cette piscine écrasée par le soleil chez Jacques Deray, où un couple mythique crève l'écran, la piscine, Romy Schneider et Alain Delon.
Tu es bien ?
Ça ne se voit pas. Je suis toujours bien quand je suis avec toi. Je n'en demande pas plus.
Et c'est à peu près le même thème qui accompagne le couple Jennifer O'Neill et Gary Grimes dans Un été 42, l'un des 3 Oscars décrochés par Michel Legrand. De l'émotion, de l'élégance, du panache enfin, lorsque Steve McQueen rencontre Faye Dunaway dans l'affaire Thomas Crown.
Pour qui travaillez-vous? Bazar? Vogue?
Pour des assurances, Monsieur Crown.
Vous êtes en quelque sorte un chasseur de tête.
On peut voir les choses sous cet angle-là, oui.
Et quelle tête recherchez-vous?
La vôtre.
Michel Legrand sublime les histoires d'amour par la musique et par les paroles. L'affaire Thomas Crown, c'est aussi ce titre. Windmills of Your Mind, Windmills of Your Mind, interprété par Noël Harrison, oscarisé en 69. Michel Legrand, une musique qui dépasse toujours légèrement les côtés de l'écran.
Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. Never ending or beginning on a never spinning reel. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind.
Marc, vous êtes le soleil de cette matinale. J'ajoute grâce à Michel Legrand.
Grâce à Michel Legrand quand même, il y a un peu pour quelque chose.
Si vous voulez féliciter Marc Bourreau pour ce journal imprévisible et tous les autres d'ailleurs, qui donnent à cette matinale une tonalité si poétique et si souriante, vous pouvez y aller, radioclassique.fr. Tout de suite, le décryptage de David Barrow.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour David.
La France s'enfonce dans la crise politique, mais la Bourse de Paris, elle, résiste.
Bah oui, c'est effectivement surprenant de se dire qu'on peut ne plus avoir de gouvernement, ne pas avoir de budget, ne pas savoir où va le pays, avoir en plus des signaux inquiétants sur le front de l'économie avec les fermetures d'usines dont je vous parlais hier. Et pourtant, la Bourse de Paris ne tousse même pas. Hier, elle a très modestement progressé, et sur les 5 derniers jours, alors que la crise politique se dessinait, notre indice phare, le fameux CAC 40, affiche un certes modeste, mais néanmoins bien réel, plus 1,52%.
Alors comment vous l'expliquez?
Le premier élément explicatif n'a pas de quoi nous rendre très fiers. Si on ne chute pas trop en ce moment, c'est parce qu'on a déjà pas mal reculé quand les autres places financières progressaient. Alors je vous donne quelques chiffres. Sur les 6 derniers mois, la Bourse de Paris est en recul de moins 10%. Bon, 10% de moins. Dans le même temps, le Dow Jones américain fait plus 15 et le DAX d'une Allemagne qui va pas si bien que ça, fait quand même plus 8. Sur une plus longue durée, le décalage est encore plus marqué et ça fait très mal. Sur 5 ans, on affiche 23% de progression. Ça peut paraître super. Mais sur la même période, Wall Street s'est offert un magnifique plus 60% et l'Allemagne plus 52%. Quand on va mal, on va plus mal. Quand on va bien, on va moins bien. Bon, du coup, on a un tel décalage de valorisation que le marché parisien commence à être pas si cher que ça. Et comme les places financières restent globalement porteuses dans le monde, en dépit de notre instabilité politique, investir à Paris peut représenter des opportunités, même si, à mon avis, il faut être sélectif.
Vous sous-entendez, David Barrow, que tous les groupes ne sont pas jugés de la même manière par les investisseurs.
Exactement. Globalement, le marché, comme on dit, a déjà pricé, superbe anglicisme, ou pris en compte toutes les mauvaises nouvelles politiques et économiques qui concernent la place de Paris dans la totalité. Bon, les investisseurs ont intégré les mauvaises nouvelles qui ne sont plus des surprises. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même à Paris des valeurs qui peuvent séduire. Il y a des groupes qui sont sur des tendances porteuses, comme Schneider, qui a profité de l'électrification des usages et qui a passé cette année le cap des 100.